Radio Panique.
Pandémique.
Rassure l'auditeur.
Après les guerres nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
Radio Pandémique tous ensemble.
On va s'intéresser aux potentielles causes de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde, et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie, et on va voir ses conséquences sur l'humanité.
Comment les gouvernements pourraient réagir,
comment les personnes comme vous et moi seraient affectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
C'est Radio Pandémique, avec un K.
Ah oui, Radio Pandémique, pardon.
Ouais.
J'aime bien.
Alors moi j'étais un peu curieuse de savoir ce qui se passait avec toutes ces histoires de production indépendante pour les hôpitaux. Tous ces gens qui font des masques, des visières et même des respirateurs. Comme plusieurs hackerspaces en Belgique et plusieurs Fab Labs et que je suis leur mouvement et leur construction depuis quelque temps, je me demandais un petit peu comment tout ça s'organisait. Alors j'ai eu l'idée de demander à Olivier Holm, qui est engagé depuis longtemps, toujours, dans la fabrication numérique.
Bah, le projet du Fab Lab ici, c'est de réinstaller donc un Fab Lab qui est rural et pas un Fab Lab de ville. Il y a très peu de culture du numérique, donc c'est aussi d'arriver à faire un tiers-lieu, en fait, où il va y avoir d'autres choses en plus que le Fab Lab, avec des réunions, de l'éducation des jeunes, des vieux, des...
Ça, pour toi, ça s'inscrit quand même dans un investissement que tu as depuis longtemps dans ces projets de Fab Lab et de fabrication autonome.
Fabrication locale et de distribution, en fait, de la fabrication, de réindustrialisation. Enfin, c'est toute une réflexion que j'ai depuis longtemps et qui va assez loin dans l'idée de redéployer le numérique en distribution sur les localités. Donc ça, bien sûr, mais aussi la fabrication par les Fab Labs, mais plus que ça encore. Donc, c'est là où le mouvement des tiers-lieux en France est beaucoup plus loin qu'en Belgique. À ce niveau-là, il n'y a rien du tout dans cette idée-là, à part peut-être justement la microfactory, qui est un Fab Lab vraiment coopératif, qui a été lancé aussi par une personne et qui est un truc vraiment qui a une communauté qui tient le truc. Tous les autres Fab Labs sont des Fab Labs institutionnels.
J'avais proposé un petit peu de parler de cette histoire de fabrication pour les hôpitaux dans le contexte de la crise actuelle. J'ai vu annoncer partout qu'il y avait des collaborations avec des hackerspaces et des Fab Labs indépendants qui se mettaient en place. En regardant un petit peu de plus proche, j'ai vu que c'était quand même une organisation assez structurée et qu'il s'agissait plutôt du milieu de l'innovation. Mais je pense que toi, tu as peut-être une expérience différente et tu as tenté quelque chose un petit peu différemment. Est-ce que tu veux raconter un peu ?
Ce que j'ai constaté, c'est qu'en gros, il y avait eu une structuration assez rapide au niveau des Fab Labs institutionnels, notamment de l'UNB, à Gand, à Louvain, etc., qui évidemment, directement en contact avec des universitaires, ont lancé cette espèce de collaboration. Ou ces espèces de collaboration, parce que j'ai aussi eu du mal à suivre entre les institutions belges ici qui ont fait leur organisation aussi d'un côté au niveau francophone et puis les niveaux néerlandophones, mais en n'étant pas coordonné avec les autres. C'est un truc très bizarre et moi en étant Fab Lab tout à fait... absolument aucune possibilité de réellement me connecter là-dedans, surtout que je suis pas sur Facebook, donc voilà. Ces groupes-là qui se sont organisés de cette manière-là, bah évidemment j'ai suivi ce qu'ils ont publié. Ce qui m'a semblé intelligent en fait de participer, c'était à l'effort justement qui est effectif tout de suite, c'est de faire ces visières qui sont pas évidentes à produire malgré tout en autoproduction quoi qu'elle soit, parce qu'on peut en faire aussi avec des bandes de plastique découpées au cutter et tout ça. Il faut le bon plastique, etc., etc. Tous ces objets qui sont produits pour pouvoir aider le secteur médical, il ne faut pas oublier non plus qu'ils doivent aussi être testés, arriver à un point de maturation où ils sont vraiment fonctionnels et acceptés par le milieu médical pour travailler avec. Il y a eu plein de projets, notamment ces histoires de respirateurs et compagnie. Les premières photos des prototypes étaient assez ridicules d'après moi. Je ne sais pas où ils en sont arrivés. Je suppose quelque chose de plus ou moins acceptable. Mais là, à nouveau, ça coince parce que il faut effectivement une validation qui normalement ne se fait pas en urgence comme ça, quoi. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'en Belgique, on est complètement désindustrialisé. Ou est-ce qu'il y a encore des ateliers qui sont un peu généralistes et qui peuvent du jour au lendemain changer leur production parce qu'ils ont des machines et des chaînes de production qui peuvent se réadapter? À part dans certaines parties d'industrie comme l'automobile ou des trucs comme ça qui est produit en flux tendu, et donc quand il n'y a pas de réserve, une fois que les flux sont coupés, c'est perdu. Notamment les respirateurs, etc. Tout le monde en a besoin en même temps, au même moment.
Et donc, du coup, ça serait finalement une espèce de validation de cette économie de la production délocalisée à des fins sociales. Moi, ça me questionne beaucoup parce qu'à la fois, je me dis, toutes ces structures de l'innovation qui m'ont tellement fait souffrir par leur bullshit language et tout ce qui vient avec, là trouve une espèce de justification. Et je me dis, c'est peut-être le signe quand même d'une transition à laquelle je m'attendais pas.
Mais moi personnellement, je trouve qu'il y a une sorte de justification de ces lieux tout d'un coup, mais elle est disproportionnée et elle est pas justifiée. C'est des grands mots comme ça, 200 volontaires pour ou 1500 Fab Lab. Il y a 3,5 personnes qui ont réellement bossé pour mettre des modèles au point, qui ont été payés pour d'ailleurs dans ces Fab Labs, parce qu'il faut pas oublier. Et au final, les autres en ont discuté un peu, ont fait des tests de leur côté. Parce qu'il n'y a pas nécessaire d'avoir des Fab Labs aussi lourds et aussi hiérarchisés que tous ceux qui sont mis en place là. Des Fab Labs beaucoup plus petits et beaucoup plus distribués auraient justement peut-être pu encore faire plus de résultats.
Et toi, du coup, tu me racontais que tu t'étais retrouvé finalement à produire quelques visières dans ton salon et à trouver des débouchés qui n'étaient pas assurés par ces structures plus importantes.
Elles prétendent de rassembler vers le lien, mais le lien le plus proche, c'est le Fab Lab de l'Université de Mons. Pensez bien qu'ils ne sont pas en contact avec les CPAS de chacune des communes environnantes. Eux ont besoin pour notamment, ici c'est le cas, de masques, de masques de protection tissu, mais aussi de visières pour les soignants à domicile. C'est à nouveau, c'est ça que je dis, il y a une espèce d'abus de position dominante par ces Fab Labs institutionnels et un peu centralisés. Qui disent, on est la solution, alors qu'en fait, ils sont une petite part de... C'est beaucoup de la com par rapport à un truc qui n'existe pratiquement pas et qui a pour l'instant pas beaucoup d'influence sur le vie quotidienne. Je pense qu'en France, ils ont fait beaucoup plus de travail par rapport à ça et qu'il y a beaucoup plus de Fab Labs locaux, là, qui font partie de tiers-lieux, qui sont dans l'éducation permanente et quotidienne et qui ont aussi diffusé, là, des modèles de visière et de... Et autres, en fait, locales.
Alors, pour conclure, Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce modèle de production décentralisée pour le système public, le système étatique des hôpitaux?
Pour moi, c'est l'avenir, dans le sens où c'est là où, quelque part, on revient à se réapproprier les moyens de production, de manière purement pratique, d'un commerce qui, de toute façon, va devenir de plus en plus difficile à maintenir de manière continue à l'avenir. On voit bien que le monde devient de plus en plus réactif dans tous les sens. Donc
tu ne le vois pas nécessairement comme une solution à l'urgence, mais bien comme un mode de production.
Un mode de production résilient, oui, qui va permettre qu'il n'y ait plus d'urgence. C'est un modèle qui va le prévenir.
Et qui sort du bénévolat, qui ne s'inscrit pas dans un système bénévolat.
Complètement. Il faut que ça permette aux gens de travailler dans leurs besoins, dans leurs capacités et dans d'avoir des revenus de leur travail. Personnellement, je suis aussi à soutenir des thèses de l'ordre du salaire à vie, des trucs comme ça, mais justement des tiers lieux de production permettent d'exprimer les compétences des gens, une forme de, je pense, d'efficience de production.
Alors, mon cher Pascal, Jean-Michel, Pascous, Pascal.
Oui, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, Gladys.
Par ces temps de confinement, il faut savoir faire preuve de créativité. Hein. Voilà, j'essaye de créer. Vous donne plusieurs prénoms. C'est comme ça, c'est ma petite fantaisie du confinement à moi. Hein. Si vous avez des fantaisies du confinement, des petites choses comme ça, des petites manies qui sont nées depuis le début du confinement, n'hésitez pas à nous le faire savoir, hein. On est curieux de peut-être que vous avez des nouveaux passe-temps qui sont nés dans votre vie, comme une passion soudaine pour les insectes, en particulier de type cafard. Ça peut arriver quand on habite dans des petits appartements dans des immeubles, par exemple, hein. D'ailleurs, une grosse pensée, hein, pour tous ceux qui vivent dans des petits apparts. On vous fait des câlins, mais en mode geste barrière, hein, des câlins de loin.
Oui, alors, l'expression en mode est bannie de cette émission, mais je vous laisse un petit joker, chère Gladys. Voilà, oui, on a remarqué, là, depuis ces temps de confinement, les gens sont devenus très créatifs. Et alors, nous avons de la chance, dans les Côtes d'Armor, là où nous sommes, au Vieux Marché, nous ne sommes pas tout à côté de la côte, donc nous n'avons pas les Parisiens qui sont venus sur la côte, dans leur résidence secondaire, très luxueuse, de Perros-Guirec, par exemple. Non, bon, maintenant on va écouter un petit morceau, de No Means No, pour prendre une arme à feu. Somebody down. I got a gun. I'm gonna find me someone.
Confinement intime, confinement intime, le podcast.
Reste chez toi, connard.
On est le lundi 23 mars 2020 et il est midi 46. Donc je viens de passer la matinée au soleil, c'est-à-dire que chaque matin, je calcule où je pourrais avoir le plus de soleil pendant le plus longtemps devant ma fenêtre. Et du coup, je bouge tous les meubles pour pouvoir mettre ma chaise et profiter du soleil. Avec une petite brise des fois en ouvrant la fenêtre. C'est vraiment un moment appréciable.
Il est 8h51 et il faut absolument que je me mette en route pour aller chercher mes neveux. Mais j'écoutais la radio, je profitais du silence dehors et je me disais que ce qui est sympa avec la radio, avec les directs, c'est qu'on a droit à des petites erreurs et donc la personne qui était en train de parler parlait du fait qu'il y avait énormément de masques qui avaient disparu. Et il disait « je jette la pierre à tout le monde ». Et puis il s'est repris, il a dit « non, je veux dire, je jette la pierre à personne ». Mais voilà, je trouvais que c'était un beau lapsus.
Ouais, donc j'apprécie ce confinement parce que ça me permet, je sais pas, de faire les choses sans penser à la prochaine chose que je dois faire. Parce que d'habitude, j'ai... Enfin, le temps et les journées m'angoissent, en fait, parce que j'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses et au final, j'en fais pas beaucoup. C'est un peu toujours... Alors que là, maintenant, j'apprécie juste... le moment... Heure par heure, activité après activité, c'est même différent que les vacances. Que les vacances, on sait qu'il y a une fin, on sait qu'il faut vraiment le plus profiter, voyager, découvrir, voir des gens. Alors que là, on est un peu en face de nous-mêmes. Et voilà, ça me permet de, même pas de réfléchir, mais juste de profiter de l'instant présent, quoi.
Dimanche 22 mars, 14h. Place du jeu de balle.
Il y a des foyers derrière ces façades de maisons toutes tranquilles, toutes droites, toutes silencieuses. Il doit y avoir des intérieurs, des foyers où ça doit être très glauque. Je pense que au niveau violence conjugale, violence familiale, ça doit pas être terrible.
Should they stay at home?
The advice is crystal clear, which is you should stay at home unless you have one of the four reasons, which is exercise, shopping as little as you have to, for medical reasons, or to go to work, where that work can't be done at home. And if you're a key worker, for instance, if you work in the NHS.
Dimanche 22 mars, 16h12, je suis dans mon bureau.
Mayday, mayday! Ici vol DC-132! Demande priorité d'urgence pour atterrir avec déploiement immédiat du CCU, le Canadian Contamination Unit!
Ici tour de contrôle, quel est votre problème?
Mon copilote, qui est assis juste à côté de moi, tousse et a la guédille au nez. Ah! Avez-vous entendu?
Ben oui, hein, regardons ça, vient de faire un gros apichum, le monsieur. Ah, écoutez, commandant, là, donnez-y une petite choc de sirop bâclé, là, pis tout va bien aller.
Donnez-y une petite choc de sirop bâclé, là, pis tout va bien aller. Hey, le jouf! Qu'est-ce qui te dit que c'est pas le SARS, la grippe aviaire, le virus du Nil, ou encore pire?
Je crois que c'est juste un petit rhume, là, commandant. Je me sens pas du pire que ça, là.
Hey, toi, laisse ta bouche fermée!
Commandant, restez calme, s'il vous plaît, là. Restez calme!
Non, je ne reste pas calme. Mon cockpit est contaminé par des milliards de germes gluants invisibles à l'œil nu. Qui risque de muter à tout moment à un virus mortel qui pourrait me foudroyer. Ce qui mettrait automatiquement la vie de tous mes passagers en péril. Achou!
Est-ce qu'il fait de la fièvre, là, votre copilote, là?
Ben, justement. Vous savez, pour être prêt à faire face à toute éventualité, je traîne toujours sur moi un petit thermomètre anal.
Non, écoutez, là, je vous dis, commandant, là, j'en fais pas de température, c'est juste un petit rhume. C'est un petit rhume, là.
Malheureusement, mon copilote affiche un comportement suspicieux en refusant de baisser son pantalon.
Bon, d'accord, on prendra pas de chance, là, vous connaissez la procédure. Allez vous poser un coup de joie qu'on va évacuer vos passagers, décontaminer l'avion, puis vous mettre en quarantaine.
Hein? Comment ça, nous mettre en quarantaine? C'est lui qui est plein de microbes, là, c'est pas moi.
Écoutez, commandant, là, si votre copilote tousse puis éternue juste à côté de vous, là, vous avez probablement ses jambes partout sur vous. Suivez bien les directives du CCU, puis tout va bien aller. Bonne chance, un coup de joie. Over.
Ah, je suis vraiment désolé, commandant, je... Hey, ta femme, tu ta gueule, toi! Ok, commandant, je...
Et pendant ce temps-là...
Au Mexique.
Bonsoir Luis Martinez Andrade, tu es pas loin d'ici, tu es aussi à Bruxelles, mais tu viens de rentrer du Mexique. Comment ça se passe au Mexique en ce moment?
Bonsoir Guillermo. Déjà, merci pour cet espace pour faire passer un peu les messages de ce qui se passe au Mexique. Bon, d'abord, je voudrais dire qu'il faut avoir dans l'esprit le contexte mexicain, c'est-à-dire l'État au Mexique, l'État en Amérique latine en général. On ne peut pas le comprendre de la même façon qu'on comprend l'État en Europe. L'État au Mexique, très concrètement, c'est un État corrompu. Les 60% de la population vit dans la pauvreté. On dit que même sur le seuil de pauvreté, à peu près entre les 50 et 60% de la population vit du commerce informel. Donc, c'est une grosse population qui n'était pas reconnue, si tu veux, par l'État. Bon, bien sûr, s'il y a quelques délits qu'ils vont commettre, ils vont aller en prison, mais ils n'ont pas les droits ou l'accès à la sécurité sociale. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas porteurs d'un statut juridique. Donc déjà, on pourra dire qu'au Mexique, les 50% de la population, c'est qu'en français, on dit les laisser par compte, les oublier. Il faut aussi se rappeler qu'à partir de 2006, on est entré dans une sorte de guerre contre les narcos. La fameuse guerre déclenchée contre les cartels par Felipe Calderón, à l'époque, Felipe Calderón, le président du Mexique. Puis continué par Enrique Peña Nieto, et bien évidemment, avec ce nouveau président, López Obrador, depuis qu'il était candidat, il a proposé des autres voies, justement, pour baisser la violence. Malheureusement, ça n'était pas eu le cas. Déjà, on dit que le mois dernier, ils ont décédé à peu près 2400 personnes. 2400 personnes en un mois.
2400 personnes mortes de mort violente.
Oui, de mort violente, seulement le mois dernier. Ça nous montre que le contexte mexicain, c'est assez particulier. Donc, ça fait que, par exemple, déjà, les gens se méfient beaucoup de l'État. Un exemple. À l'époque où, ici en Europe, on commençait à confiner les gens en France, c'est-à-dire quand, par exemple, en Espagne ou en Italie, on était témoin de comment le système de santé s'est écrasé. Et voilà, on a commencé le confinement. Au Mexique, d'abord, la première attitude du président, c'était de rigoler un peu avec ça, non? En disant, voilà, il ne faut pas exagérer. Il invitait aux citoyens mexicains à aller se rendre au bar, aller se rendre au restaurant, voilà, que ce n'était pas des choses graves. Bien évidemment, après, quand ça a commencé très, très fort aux États-Unis, parce qu'on est quand même un pays voisin aux États-Unis, ça a commencé à alerter les autorités. Deux, trois jours après, et finalement, López Obrador a fait une joue politique très intelligente. Il a mis dans l'avant-garde à un personnage qui s'appelle López-Gatell, le sous-secrétaire de la santé. C'était un biologue, je crois. Donc, il a délégué en tant que chef d'État les propos aux corps médicaux.
Grosso modo, il s'est dédouané en donnant la patate chaude aux spécialistes ou aux soi-disant spécialistes, quelque chose comme ça.
Tout à fait. Bien évidemment, ça, d'un côté, a généré beaucoup d'enthousiasme en disant « Regardez, lui, López Obrador, c'est un politicien différent. » Parce qu'il faut se rappeler que López Obrador, c'est le premier président qui vient d'un mouvement, si on peut dire, de gauche.
Et il était censé être une sorte de sociodémocrate relativement présentable.
Tout à fait. Moins polémique, moins dangereux, entre guillemets, que si on le compara avec Hugo Chávez ou avec Maduro, ne sais pas, c'est-à-dire López Obrador était vu même comme le prochain Lula. Surtout, rappelez-vous qu'il y a à peu près 4 mois, quand il y a eu le coup d'État au Bolivie, un des premiers pays qui s'est solidarisé avec la Bolivie, c'était le Mexique. López Obrador était toujours présenté comme une sorte de politique différente, plus sensé, ne sais pas, voilà, qui ne mettait pas en péril les capitales. Et il s'est rendu compte que la pandémie, c'était une chose très, très importante qui touchait toute la planète, que ce n'était pas un truc contre son gouvernement. Il a fait un jeu très intéressant. Il a justement, comme tu as dit, de donner la responsabilité au discours médical. Et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Bon, ils ont commencé à faire le confinement. Fait ce qu'on fait en Europe, c'est-à-dire dire aux gens qu'ils restent à la maison. Mais il y a une chose importante à dire, je répète, il faut avoir dans l'esprit que dans les cas mexicains, les 50% de la population vit du commerce informel, c'est-à-dire sont des gens qui ne peuvent pas rester chez soi. Tu vois? Pourquoi?
C'est-à-dire parce qu'il y a eu ce discours de dire aux gens restez à la maison, mais il n'y a pas eu de mesures qui leur permettaient d'effectivement rester à la maison.
Tout à fait, parce que par exemple, les gens qui doivent sortir pour vendre de la fruits, des légumes, déjà on a cette couche de la population qui est très large. Et on a d'un côté ces cas particuliers. D'un autre côté, on a aussi des entreprises, par exemple, des Starbucks, Pizza Hut, non, les grandes transnationales, qui n'ont pas respecté, comme ici, par exemple en Europe, les salariés. Dès qu'ils ont appris la nouvelle que le gouvernement a implémenté ce sort de politique, ont commencé licencier beaucoup de gens sans salarié. Mais le plus intéressant de ça, c'est que ce n'était pas seulement les grandes entreprises, les grandes transnationales qui ont licencié des gens. Mais hier, j'ai lu la nouvelle qu'il y a l'INEGI. L'INEGI, ça sera comme l'INSEN en France, c'est-à-dire l'Institut National des Statistiques, a licencié à peu près 10 000 personnes. Même l'État, parce que finalement, c'est une institution d'État, a licencié des gens. Donc, oui. on est dans un cas particulier où la rationalité biopolitique se transforme plutôt en une sorte de rationalité thanatopolitique. C'est-à-dire, là-bas, l'État ne voit pas les citoyens comme des serfs, qu'il faut voilà, les assurer, non? Cette idée non, de l'État hobbesien. Mm-hmm. Voilà, les citoyens, finalement, sont des vassaux, les vaisseaux de l'État. Là-bas, si vous voulez, ils ne sont pas reconnus par le même État. Ils sont une sorte de zombies, de vie mourante. On revient aussi au discours de ces statistiques. C'est-à-dire, regardez, nous dit la presse mexicaine, ici, il n'y a pas beaucoup de morts. Mais on oublie de dire que, par exemple, il s'est déjà beaucoup dénoncé par la presse alternative, que beaucoup de gens qui meurent par le coronavirus ils ne sont pas comptabilisés justement comme des morts par le coronavirus, mais là-bas, ils partent d'une sorte de pneumonie atypique. Donc, voilà. Donc, si vous savez, 10 morts pour le coronavirus, on pensait que 12 c'était pour coronavirus, mais les 8 autres personnes sont mortes par des questions liées à pneumonie atypique. Donc.
Et du coup, les résultats de tout cela, c'est quoi? C'est en fait un confinement dans certains endroits, pas de confinement du tout? Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Bon, il faut se rappeler que le Mexique, c'est un État fédéral. Donc, chaque État, on a à peu près 32 États, donc chaque État a ses propres organisations. Mais en même temps, pas tous les politiques réagissent de la même façon. Par exemple, le gouverneur de l'État de Jalisco, qui c'est un ancien priiste, c'était l'ancien parti d'État qui a gouverné le Mexique pendant à peu près 70 années. Et c'était une des premières à se prononcer pour le confinement. Mais pas vraiment pour une sorte de qu'il se soucie de la sorte de ses concitoyens, mais plutôt pour une sorte d'équilibre de pouvoir, vous voyez? Donc c'est, il n'y a pas une politique homogène dans tous les territoires. Au même temps, il faut dire que le Mexique, c'est un pays très, très grand. Le Mexique, je pense que ça vous fait à peu près l'Espagne, la France, et je ne sais pas, l'Allemagne ensemble. C'est un territoire très, très grand, très, très long. Donc, c'est pour cela que je pense que la pandémie ou le virus n'avance pas très vite comme ici en Europe. Finalement, en Europe, on a des villes très, très proches l'une de l'autre. Là-bas, il y a même des villages que c'est très, très difficile d'y accéder. Donc là-bas, on ne sait pas ce qui se passe, ce qui se va passer. Donc, maintenant, je pense que à mon avis, on va voir plus clairement les dégâts de la pandémie, tous les morts, la fin d'avril, début mai, à peu près. Maintenant, c'est un peu très tôt.
Et sinon, enfin bon, ça c'est, disons, l'action de l'État, mais est-ce que du côté des mouvements sociaux ou politiques ou des syndicats, etc., il y a eu aussi des actions qui ont été organisées? Je sais que du côté des zapatistes, il y a eu pas mal de choses qui ont été organisées, notamment.
Oui, bon, également, la société mexicaine, si on peut dire, les gens d'en bas, est très hétérogène. Par exemple, les zapatistes, avant même que le président avait promulgué la question du confinement, ils se sont dit qu'ils vont s'enfermer. Vous vous rappelez, les zapatistes, c'était un des premiers à faire ça. Il ne faut pas oublier qu'en 2009, on a eu aussi une pandémie, la fameuse pandémie de porcine. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
La grippe porcine, enfin.
Oui, que c'était en 2009. Et que l'épicentre était le Mexique. Donc, oui, je crois que cette pandémie qu'on a eue en 2009, quand même, a fait que certaines couches sociales ont appris à, voilà, se soucier d'eux-mêmes. Donc, je crois que oui, ça sera un aspect, si vous voulez, avantageux de la société mexicaine, que des couches sociales, voilà, on a déjà appris à ça. Il y a ce sort de, voilà, de solidarité. Mais, en bas, c'est très, très hétérogène. On peut voir des gens qui s'organisent, parce qu'ils se sont organisés depuis 2009 avec une sorte, voilà, de commerce, voilà, plus le troc, non, qui revient au troc, au sort de solidarité organique, voilà, entre voisins, voisinage. Mais bien sûr, ce sont des gens qui, finalement, ont une tradition de lutte forte. Mais bon, on a d'un autre côté aussi des gens qui ne sont pas politiquement formés, que voilà, ne prennent pas en considération les consignes, c'est-à-dire voilà, rester à la maison, ne pas sortir.
Sinon, une autre question, parce qu'on avait parlé un peu tout à l'heure, bon là c'était plutôt par rapport au Brésil, mais est-ce que dans les zones plus contrôlées par les narcotrafiquants, etc., ils ont réagi d'une manière particulière ou eux, ils ont continué comme d'habitude?
Je sais seulement dans le cas de Coahuila. J'ai entendu que dans l'état de Coahuila, parce que bon, rappelez-vous aussi qu'au Mexique, il y a beaucoup de cartels. Ils sont des espèces d'entreprises. Il y a même des cartels qui ont déjà disparu. Vous savez, les CETAS, non? Les fameux CETAS, ils n'existent plus. Les
zapatistes. Ah, d'accord. Ah, ok.
Oui, les CETAS n'existent plus. Maintenant, on a des nouveaux groupes comme les Nuevo Jalisco, Nueva Generación. Bon, il y a beaucoup. Donc, dans l'état de Coahuila, que c'est l'état du Chapo Guzmán, le fameux Chapo Guzmán qui est maintenant aux États-Unis, on a entendu que c'est plutôt les cartels qui ont fait respecter le confinement. C'est plutôt les cartels qui s'occupent de ce qui devrait faire la police ou les soldats. C'est plutôt les cartels. Et je viens de lire un reportage, je pense que c'est dans la revue Proceso, une revue importante au Mexique, qui racontait que même il avait des cartels. Je ne sais pas si c'était aussi à Michoacán ou à Coahuila. Je ne me souviens pas, mais dans un état au Mexique, un des cartels distribuait aussi de la nourriture aux gens, justement, parce que ces gens pour rester à la maison. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les cartels, quand même, ont rempli une fonction que l'État avait laissée. C'est-à-dire, c'est pas, il ne faut pas romantiser le narcotrafic, bien évidemment pas. Ce n'est pas ce sort de bandolérisme social qui parle Hobsbawm. On est loin de ça. Mais quand même, le cartel doit se légitimer vis-à-vis de la population. Parce que finalement, des fois, c'est la population qui les protège, mais pas parce qu'ils sont d'accord avec ce que les cartels font, mais plutôt parce que, par exemple, les cartels construisent des écoles, payent des salaires aux professeurs, payent des salaires au corps médical, que des fois l'État ne fait pas, vous voyez. Donc, il y a un sort, voilà, de feedback entre certaines populations et les cartels, voilà.
Ils ont lu les classiques, ils savent que payer tout ça, ça sert à contrôler une population quand même.
Bien sûr, bien évidemment, oui. Non, je pense que les cartels ne le font pas parce qu'ils se préoccupent de la population. Ce ne sont pas les Robin Hood, ce n'est pas les bandoleries sociales. Mais ça a existé depuis longtemps. Tout simplement que dans les époques de crise, des fois, les cartels remplissent le rôle que l'État avait laissé. Le dimanche dernier, par exemple, le président avait fait une sorte de discours. Voilà, il s'adressait au peuple mexicain. Où tout le monde attendait un peu, voilà, une sorte de discours plus radical, plus social. On parlait même de peut-être qu'ils pourraient nationaliser certaines entreprises, voilà, les pharmaceutiques. Non, pas du tout. Ce qu'on a vu, c'est que voilà, il appelait aussi au grand patronat de sauver la nation. Voilà, il est très, très, très modéré. bon, il ne faut pas oublier qu'aussi on a à côté les États-Unis, on a aussi tous ces projets.
Oui, vous êtes très mal entouré aussi. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Et donc, je crois que López Obrador essaye de sauver ses projets, parce qu'il avait des projets, les fameux trains Maya. Je ne sais pas si vous avez entendu, le train Maya, c'est un sort de corridor commercial qu'il a voulu construire, qui va la rivière Maya, tout le Yucatán, que finalement, c'est la continuation du projet Puebla-Panamá, que c'était un projet néolibéral, dénoncé par les zapatistes et pour beaucoup des autres communautés indigènes. Donc, à mon avis, López Obrador sait que justement, avec la crise qu'il va avoir, parce que ça ne sera pas une crise nationale, c'est une crise systémique, c'est une crise du système capitaliste, financier. Donc, ça devra toucher ce projet. Donc, le plus intéressant, je pense, à mon avis, c'est qu'il essaye, et il va essayer justement de sauver ce projet du grand capital, mais on va voir d'où il va sortir cet argent. À mon avis, c'est pour cela que le dimanche dernier, il a voulu faire passer un message au grand patronat pour ne pas les faire peur, afin qu'ils puissent négocier les soutiens pour ce projet. Non? Mais voilà, à mon avis, c'est ça. Il faut voir ce qui va passer. Je crois qu'on aura plus clairement, on va voir plus clairement fin mai, début juin, ce qui va passer vraiment en sens économique, mais aussi social au Mexique.
OK. Donc la suite, fin mai, début juin. Merci beaucoup.
Merci à toi, Guillermo. Bonne soirée.
Le phénomène qui se passe actuellement, c'est que devant la menace...
Chéri, viens voir ce que j'ai trouvé au supermarché.
Des boîtes de riz et de pâtes et de cette terreur qui conduit...
Le remède contre le corona, c'est de faire l'amour 3 fois par jour. Parce que c'est bien connu, le corps chauffe.
On voudrait bien.
Et le corona déteste la chaleur.
À faire des stocks que je qualifie d'obscènes de nourriture.
3 fois par jour. Ouais, ouais. C'est incroyable. Ça coûte presque rien. Et avec ça, on lave le sol, la vaisselle, les carreaux.
Les gens essaient d'avoir du contrôle sur quelque chose.
Et même l'élénage. Génial, non?
Mais ça donne...
Et où l'abondance est obscène.
Une impression d'être capable d'agir sur quelque chose.
On contribue indirectement, naturellement, à cette espèce d'angoisse-là. Naturellement, à cette espèce d'angoisse-là.
Des rixes pour acheter du papier toilette.
On n'arrêtera pas d'en parler demain.
L'idée, si vous voulez, c'est que la technologie, c'est quelque chose qui n'est pas neutre, évidemment, et qui permet de distinguer entre ceux qui la maîtrisent et la possèdent, ce que nous on appelle les technocrates, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les machines, les logiciels, l'intelligence artificielle, toutes ces choses qu'on est en train de déployer en ce moment, qui sont donc des ingénieurs, des techniciens, des concepteurs, des chercheurs, Eux, ce sont les maîtres et les possesseurs, en quelque sorte, de la machine. Et puis ceux qui subissent, au fond, qui ne peuvent rien, parce que tout simplement, ils n'ont pas le savoir et qui sont donc soumis à ce monde de plus en plus technifié, machiné. Et on le voit bien aujourd'hui dans le quotidien qui nous est fait. Et ce qu'on a essayé d'expliquer depuis 20 ans, c'est que ce développement technologique, en effet, nous fait entrer dans une société de contraintes. Ce qu'on entend par là, c'est le fait que il est de plus en plus difficile de vivre en dehors de la sphère technologique, et on le voit pas singulièrement en ces temps de confinement, c'est-à-dire que nos vies sont devenues entièrement dépendantes de la connexion, du fait d'avoir des outils qui nous connectent, mais qui nous connectent à quoi, au fond, qui nous connectent à la machine elle-même, au système, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus autonome. Il est très difficile pour nous d'avoir des vies autonomes dans ce monde technologique, et que donc il est possible pour le pouvoir de nous piloter en quelque sorte par le biais de sa machinerie cybernétique, comme on le voit par exemple dans les smart cities. Et c'est intéressant d'ailleurs de se dire que Wuhan, la ville d'où est parti le virus, fait partie des plus grosses smart cities au monde. C'est quoi une smart city ? C'est l'idée qu'on va piloter toute la vie des humains, mais les humains considérés vraiment comme des flux et des stocks, hein, de façon centralisée par la machine, c'est-à-dire on automatise absolument tout. Vous êtes connecté en direct avec les réseaux de transport. Vous avez maintenant des voitures autonomes qui vont vous remplacer. L'idée, c'est qu'on va remplacer la décision de l'humain par des automatismes machiniques. Et là-dedans, une fois qu'on est pris là-dedans, on n'a plus de liberté au sens, non pas une liberté de choix comme ça qui serait celle d'un consommateur, mais de maîtrise sur sa vie. Nos décisions, notre façon de vivre sont pilotées en quelque sorte par la machine. Et évidemment, ce processus de rationalisation, il explose à l'occasion d'une crise comme celle qu'on connaît. Et chacun peut voir que maintenant, on en est à parler de contrôle par géolocalisation, par exemple, des personnes contaminées, d'utiliser le big data pour retracer les parcours de chacun, et donc pouvoir éventuellement vous avertir si vous avez été en contact avec quelqu'un de contaminé. C'est déjà le cas, ça se fait à Singapour, en Israël, mais je lisais hier dans Le Monde qu'un sondage a été fait auprès des Français, et qui sont majoritairement pour cette idée-là, l'idée d'une application qui leur dirait, qui les suivrait, hein, qui leur dirait, bah, vous, à tel moment, vous avez été en contact avec telle ou telle personne et donc susceptible d'être contaminée. Donc on voit que cette idée que la machine prendrait en charge toute notre vie, elle est déjà largement acceptée, et c'est évidemment pour nous pas une surprise, malheureusement. C'est des choses qu'on a essayé de décrire et d'anticiper depuis très longtemps déjà.
Une autre chose, c'est que avant de s'intéresser aux êtres humains, Pasteur s'est intéressé aux autres animaux, parce qu'il a d'abord été d'une certaine manière vétérinaire, car il a traité les maladies du ver à soie, qui entraînaient des drames économiques dans toute la vallée du Rhône. Il s'est attaqué au choléra des poules, etc. Donc, dès le début, il a mis en place ce qui est l'évidence maintenant, c'est-à-dire l'unité de la vie. Il y a une seule santé, une santé globale. Et quand l'environnement va mal, comment nous pourrions, nous, aller bien ? Quand les animaux vont mal, comment nous, qui faisons partie de cette grande famille des animaux, pourrions-nous nous sentir bien ?
L'émergence de ces maladies qu'on appelle zoonotiques, donc qui viennent des animaux, elles s'accélèrent singulièrement depuis 50 ans. Avec l'accélération du mode de vie industriel et le fait que les humains maintenant se concentrent de plus en plus à la fois dans des grandes mégalopoles, les métropoles, hein, mais aussi que ces métropoles ont tendance évidemment à manger le territoire naturel autour, puisque il y a aussi de plus en plus d'humains. Donc à la fois on densifie et on élargit la présence humaine sur la Terre, et donc on va empiéter sur l'habitat des animaux qui jusqu'ici, jusqu'à il y a 100 ans, 200 ans, vivaient loin de nous. On n'avait pas de contact aussi proche et fréquent avec tout un tas d'espèces sauvages, évidemment. Et donc on sait maintenant que la colonisation en quelque sorte du monde naturel par les humains les rapproche des animaux et favorise la transmission de maladies qui jusqu'ici restaient dans le milieu animal, disons. Hein, et donc effectivement, tous ces virus-là, le SRAS, la grippe H5N1, le Ebola, bien sûr, et puis le dernier en date, donc le Covid-19, nous viennent des animaux et du fait que on est trop proche d'eux et qu'on leur laisse pas d'espace pour vivre, en fait, tout simplement. Alors ça s'accélère avec toutes les grandes accélérations industrielles, c'est-à-dire les transports, évidemment, les déplacements humains d'un bout à l'autre de la planète, la déforestation, l'urbanisation, on en a parlé, et l'élevage industriel et le trafic d'animaux sauvages. Tous ces facteurs-là font que quand on est entassé les uns sur les autres, on crée du contact, et le mot contact en latin a donné contagion. Donc on commence à comprendre un petit peu ce qui nous arrive.
Alors il y a aussi le fait très remarquable que les personnes les plus touchées par le Covid-19 sont des personnes qui, ou les plus sensibles, sont des personnes qui sont déjà atteintes par des maladies de civilisation, comme le diabète ou les maladies chroniques respiratoires. Et également, les personnes les plus touchées sont des personnes qui habitent en ville.
Oui, alors effectivement, quand on parle de maladie de civilisation, c'est les médecins qui utilisent ce terme. Qu'est-ce qu'on veut dire ? Ben, on veut dire les maladies de la civilisation industrielle, en fait. Hein. C'est toutes ces maladies liées à la pollution de l'environnement, et puis aussi à des modes de vie, à une alimentation industrielle et à la sédentarité, à des modes de vie donc liés au fait que on fait moins d'efforts physique aussi, et puis qu'on vit dans un environnement de plus en plus empoisonné, l'eau, l'air, les sols, quel que soit le côté où on se tourne, les pollutions ne manquent pas. Et donc tout ça, ça a créé en fait de nouvelles épidémies, en quelque sorte, même si le mot n'est pas approprié, il n'y a pas de contagion à proprement parler, mais on a quand même des épidémies d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, sans parler du cancer, qui sont directement liées au mode de vie industriel. Et effectivement, ces maladies-là, c'est ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité en ce moment à propos du Covid-19, c'est-à-dire que les gens les plus fragiles, bon, il y a les plus âgés, et puis il y a tous ceux qui sont déjà atteints de ces maladies industrielles. Donc il y a en quelque sorte une double peine, quoi. Les maladies industrielles, elles nous affaiblissent, nos capacités de résistance à d'éventuelles épidémies qui, par ailleurs, reste finalement assez bénigne pour des gens qui sont en bonne santé. Donc on voit bien que mais ça c'est un vieux débat sur la question de la maladie et de la santé, c'est-à-dire que être malade, c'est d'abord ne pas être en bonne santé. C'est une manière un peu, ça semble évidemment pléonastique de dire ça, mais c'est vrai que plus on vit dans un environnement sain qui permet de garder des conditions de vie à peu près saines, moins on risque de tomber malade quand arrive un épisode comme celui-ci, évidemment. Et par ailleurs, en effet, on se rend compte que les gens qui sont affaiblis du point de vue respiratoire, qui ont des problèmes tout simplement de respiration au quotidien, ils vivent dans les zones les plus polluées. La pollution de l'air, ça tue beaucoup plus de gens que le Covid-19. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'hécatombe. Hein. Tous les ans, c'est 48 000 Français. Et vous, dans le Nord, vous êtes bien placés pour le savoir, parce que vous êtes une région très touchée par ça. Mais nous aussi, à Grenoble, hein, on a une forte pollution de l'air. Et ça, on s'est rendu compte aussi, là, apparemment, que si on suit les zones d'épidémie du Covid-19 où il y a le plus de mortalité, on tombe, en effet, sur des endroits qui sont les plus pollués au niveau de l'air.
On est complètement protégé, mais il faut se faire revacciner de temps en temps.
Alors, on y va. Ah, et ça fait pas mal du tout, les gars. Vous verrez, c'est rien, une toute petite piqûre. Allez, vieux, c'est à toi. C'est vrai qu'il est beau et grand.
Et je viens d'apprendre que Maggie Debloc tablait sur une prolongation de 8 semaines. Bon, alors moi, en vrai, je suis ravie. Et du coup, avec tout ce que j'entends et ce que je lis sur Internet, j'ai presque honte. Mais avec Val, on se dit que les journées passent tellement vite que limite, on n'aura pas le temps de tout faire ce qu'on veut pendant cette période de confinement. Alors, je pense que ça énerverait beaucoup de monde de nous entendre. Mais je crois que c'est vrai, parce qu'on trouve que les journées passent vraiment trop vite, parce qu'on est lent et qu'on prend le temps de faire les choses et de s'écouter, et de papillonner. Donc, du coup, les choses sont pas super efficaces, mais elles sont faites sur deux, trois jours au lieu de 3 heures. Mais voilà, on profite. Nous, on aime bien ce rythme et on a peur d'y prendre goût. Et on pense que le redémarrage va être très rude pour nous.
Un extrait de ma chanson préférée pour le 23 mars 2020. C'est la meilleure chanson du monde.
Donc aujourd'hui c'est dimanche, le soir. Et aujourd'hui c'est dimanche soir. Et en fait, je viens de manger avec mon père et ma grand-mère. Avant le repas, je pensais qu'ils allaient me faire chier à mort. Parce que je les entendais gueuler, parler de politique, nanana, de coronavirus, machin, de trucs, conversations classiques, habituelles dans cette baraque. Et en fait, à table, ils étaient doux comme des agneaux, c'était super surprenant, quoi. Ils m'ont pas parlé de guerre. Si, il m'a fait un petit peu son discours sur Hitler et les congés payés, là. Mais c'était très léger, quoi. C'est pas habituel. Ça m'a surpris. Mais agréablement surpris.
Nous sommes lundi 23 mars 2020. Il est 18h50, un peu plus tôt que d'habitude. Et je suis sur ma terrasse, j'entends des petits oiseaux qui chantent. C'était une journée magnifique aujourd'hui. Que dire, très peu de sorties, mais heureusement que j'ai une terrasse, on a passé beaucoup de temps au soleil. On a passé un petit moment à établir une charte de vie de la maison avec qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire pendant tout ce temps confiné. Et une grande séance de yoga familial. Et là, je suis avec un shampoing anti-poux sur la tête pour la 1000e fois de l'année. J'en ai marre, mais bon, voilà. Avec ce confinement, au moins, les poux vont probablement nous lâcher. Enfin, j'espère.
C'était vendredi dernier, le 10 avril à Anderlecht. Un jeune homme de 19 ans, Adil, un jeune du quartier, était au volant de son scooter et il a été pris en chasse par des policiers. Il est mort après avoir percuté une voiture de police qui arrivait en renfort face à lui. Quai de l'Industrie, une voiture en sens interdit. Son nom est Adil, c'est un jeune qui habite dans le quartier. Le lendemain, à 14h, des jeunes se rassemblent devant la maison communale et au métro Clémenceau pour dénoncer les abus des forces de l'ordre. Ce rassemblement devient une confrontation, puis émeute. Jet de pierre et de vaisselle contre autopompe et gaz lacrymogène. Dans le week-end, il y aura 57 arrestations selon la RTBF. Au même moment, le samedi, des proches et la famille, en deuil, se rassemblent devant la maison de la victime et sont témoins de provocations de la police surprenantes.
Il y avait 3 femmes qui étaient devant la porte, qui, vous voyez, disent bonjour à tout le monde, qui viennent présenter leurs condoléances. Et à ce moment-là, les camionnettes passent.
Oui, puisque les gens ne pouvaient pas rentrer avec le coronavirus, donc reçoit un peu les gens à l'extérieur. Rejoint un peu les gens à l'extérieur et voilà. La police, mais c'est où aller s'attaquer? Les jeunes qui sont tous à Clémenceau, mais qu'ils aillent là-bas. Pourquoi ils viennent, ils passent tous devant la maison des gens endeuillés? C'est pas normal. Ils savent qu'il y aura un jeune ou deux qui est en colère parce que ce gamin de 19 ans qui est mort percuté de face à face par une voiture de police, ça, c'est normal, ça met les gens en colère. Ça les met, ça met ses amis en colère. Il y aurait eu quelque chose qui se serait allumé en passant devant. Aller voir de l'autre côté, laisser la famille faire son deuil. Laisser la famille faire son deuil.
Ils sont passés, ils ont dit sale bougnoule, bande de sale bougnoule. Et il y en a un qui s'énerve, il lance un truc, un arabe, voilà, il lance un truc. La police sort avec des matraques et des bombes lacrymogènes. Et ils balancent sur tout le monde. Oui.
Vous auriez dû voir l'intérieur, tous le père, des hommes adultes qui étaient devant la porte à présenter les condoléances aux parents, au père devant la porte. Tout le monde est rentré gazé jusqu'à l'intérieur. Vous savez, ça suit. Les dames à l'intérieur,
elles sont en train de pleurer leur fils et elles se font brûler les yeux en même temps.
Et essayer de refroidir ça avec du coca. C'est une scène de je sais pas. Oui, dans un film, je l'aurais pas imaginé.
Et le frère du petit, il est sorti tout seul dans la rue devant les 5 camionnettes. Il disait « Arrêtez, s'il vous plaît !» Il pleurait. Et il est grand, c'est un homme. Il pleurait, il disait « Arrêtez, s'il vous plaît, vous avez gagné, on ne veut pas se battre. » Et comment ? Je veux dire...
Mais qu'il est... Et voilà, là où ils sont. Ils sont là, ils sont de l'autre côté. Ils passent, ils repassent devant la maison du défunt. Laissez-les. Mettez une barrière entre cette rue et de l'autre côté de la rue. Et empêchez les gens de pas... Protéger ces gens-là. Protégez-les, qu'ils fassent leur deuil. Et qu'on est à l'époque de la Gestapo, madame. On dit quand on voit quelqu'un, deux personnes ensemble, il faut appeler la police. C'est ce qui s'est passé. Ils ont vu deux jeunes ensemble, ils ont appelé la police. La police est venue. Ils ont fui. Mais c'est 19 ans. Peut-être qu'il n'avait pas les papiers de la voiture.
C'est interdit. Peut-être. Dans tous les cas, c'est interdit de courser quelqu'un sur deux roues. Interdit.
Peut-être qu'il n'avait pas les papiers de la voiture, de la moto. Peut-être que c'était une moto volée.
C'était un acte inconscient.
C'était un acte inconscient de ne pas s'arrêter. Mais ceux qui sont conscients, c'est la police quand même. Ce sont des adultes. Elle est où la pédagogie ? Qu'ils coursent un gamin en mobylette. Deux voitures, une devant et une qui vient en face et qui lui rentre dedans. C'est pas sérieux.
Il est mort sur le coup.
C'est pas sérieux.
Il est mort sur le coup, madame.
Il ne peut pas laisser faire ça. Il ne peut pas laisser faire ça. On voit un gamin qui n'a pas de casque, la police le course. Courser des bandits, courser des voleurs, courser, faites des enquêtes. Mais courser pas un enfant à mobylette, qu'elle soit volée, qu'elle soit... Calmez-le, qu'il s'arrête. Mais pas ça. Mais pas ça. C'est honteux.
Il y a quelques années, c'est un couple qui était en mobylette, la même histoire. La police arrive pour les trucs, il accélère un peu, il lui rentre dedans. Mais ces deux roues et ces deux personnes, ils sont morts sur le coup. On a fait des marches, Mais c'est pas normal. Je milite jamais contre la police, hein. Je suis jamais contre, je suis pour justement. Mais pas cette police-là, elle est dégueulasse. Vous voyez, moi, la vérité, un jour, je me suis fait frapper par un homme, j'ai appelé la police, ils sont arrivés 3 heures après. Quand c'est pour des gamins, ils sont tous là. Quand c'est pour des vrais actes de violence envers les femmes, ils sont pas là, ils ont peur. Des vrais hommes se battent contre des vrais bandits ou des criminels, ils ont peur. C'est des tapettes. Moi, j'ai plus aucun respect pour la police, que ce soit en Belgique ou en France, aucun respect. Ils méritent pas le respect.
Évidemment, nos téléphones sont pour eux un outil de surveillance. Mais ils peuvent être utilisés comme arme médiatique. Filmer la police, c'est un droit, l'enregistrer aussi. Si vous aussi vous êtes de temps en temps révolté face aux interventions de la police, Pandémique fait une émission spéciale ce vendredi et vous invite à laisser des messages au répondeur. Au 02 318 60 68. Pandémique vous salue.